Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade.
Ma radio.
Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre émission Alors on change, l'émission d'Alternative à Villefranche-Beaujolais, où on parle des questions sociétales en lien avec l'urgence climatique, l'environnement et la justice sociale. Aujourd'hui, on va encore une fois aborder le sujet de l'alimentation. Cette fois, on va l'explorer, ce sujet, via le concept émergent de la sécurité sociale de l'alimentation. Mais pas que, vous verrez.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. Qui a faim ?
Trop de gens mangent mal ou mangent pas leur faim en France et trop d'agriculteurs vivent mal de leur travail et de leur revenu. On s'est dit, on va faire comme la sécurité sociale. Après tout, on n'a pas besoin d'attendre que l'État mette en œuvre des choses pour se réapproprier la question de la démocratie alimentaire et du revenu paysan.
Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leur possibilité de vie et l'assurance contre tous les risques sociaux.
Tout le monde disposerait de cette fameuse carte vitale de l'alimentation.
Le poulet, la mayonnaise, le chocolat, les champignons.
Trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Et pour cela, il faut avoir des politiques collectives.
Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, non, votre carte vitale ne marche plus.
La sécurité sociale a été bâtie pour garantir contre les risques de toute nature. Or, l'alimentation n'est pas un risque.
Il y a le risque de ne pas pouvoir se nourrir. Mais c'est aussi un risque pour notre santé. Les dépenses liées à la malbouffe dans notre pays s'élèvent à 19 milliards d'euros par an.
La sécurité sociale de l'alimentation, elle fait en sorte qu'on ne détériore pas la santé.
Avec cette carte vitale de l'alimentation, on n'accède pas à n'importe quel produit dans n'importe quel magasin.
Le Rassemblement national défend une agriculture libre, souveraine. Nous refusons que la distribution alimentaire devienne un outil militant au détriment des professionnels qui nourrissent réellement la France.
Aujourd'hui, nos concitoyens ne choisissent pas leur alimentation.
Il y a 1000 euros d'argent privé pour faire la pub sur l'alimentation pour 1 euro d'argent public de bonne information sanitaire.
Pour le moment, aucune caisse alimentaire n'est autonome à 100%. Elles bénéficient toutes de financements publics ou privés.
La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres.
Personne ne sait comment les aliments arrivés dans son assiette ont été fabriqués. De la fourche à la fourchette, nous avons perdu la main. La démocratie alimentaire est en panne.
Quand il y a des plans alimentaires territoriaux, beaucoup aboutissent à des sécurités sociales. Et donc, il y a des liens qui se tissent, y compris entre les habitants. Et tout le monde devient, à son niveau, un expert.
La manière dont on mange, c'est extrêmement lié à ce qu'on est. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se mettre en place autour de cette idée-là.
Demain, si la sécurité sociale de l'alimentation était étendue à tous les citoyens français, ça permettrait la reprise du pouvoir des producteurs sur leur circuit de commercialisation, la reprise du pouvoir des consommateurs sur ce qu'ils veulent consommer. Ben, ce serait une révolution incroyable.
Cette révolution, excusez-moi cette formule, est attendue par tout le pays.
Les futurs et puis les cornichons.
Voilà, alimentation, système alimentaire au sens large. On est nombreux à constater que quelque chose tourne pas rond dans notre système alimentaire. En fait, c'est un malade avec des symptômes de plus en plus évidents. En 2025, il y a encore beaucoup de Français qui ont des difficultés à se nourrir. 20% des étudiants ne mangent pas toujours à leur faim. Un Français sur trois saute des repas pour des raisons économiques. La malbouffe, elle a un impact majeur sur notre santé, mentale, et pas seulement. Les paysans souffrent eux aussi, la plupart gagnent à peine leur vie et il y en a une minorité qui est subventionnée pour produire des céréales qui sont destinées à l'exportation. La biodiversité, elle, s'effondre, l'eau est de plus en plus polluée, notamment du fait des pratiques agricoles. Bref, il y a trop de gens qui mangent mal, il y a trop de paysans qui vivent mal et notre environnement est plus que malmené par notre système agroalimentaire. Alors, comment on change tout ça ? Pour certains, la sécurité sociale de l'alimentation, serait une des façons de traiter l'ensemble de ces sujets. En effet, la SSA ne se limiterait pas à lutter contre la précarité alimentaire, mais elle est aussi présentée comme un projet systémique. Ça vient modifier, en fait, le fonctionnement de l'ensemble du système alimentaire, du producteur au consommateur, et c'est une manière de faire changer notre société en douceur. Alors, pour en parler, ce soir, nous avons deux invités, Dora et Bruno. Dora, tu es membre de la CLAC, la Caisse locale d'alimentation de Cadenet, joli village situé dans le Luberon. Merci Dora d'être parmi nous pour ce soir témoigner de ton expérimentation, de votre expérimentation de la SSA.
Bonjour.
Bruno, responsable du plan alimentaire territorial Grand Orly Seine-Bièvre, est par ailleurs engagé dans le lancement d'une expérimentation aussi, et cette fois à Paris 18e. Tu es aussi membre du groupe de travail pour la SSA au sein de LFI. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Alors Bruno, tout de suite, je vais te demander si tu veux bien nous expliquer en quelques mots comment a émergé cette idée de la sécurité sociale de l'alimentation.
Alors, elle a émergé il y a déjà quelques années par un camarade qui s'appelle Tanguy. Et puis ensuite, ça s'est développé chez les Ingénieurs sans frontières. Et ça a pris dans plein de réseaux tissus associatifs qui se sont regroupés autour d'un collectif national pour la sécurité de l'alimentation, sécurité sociale de l'alimentation. Et les principes de base sont les mêmes que celui de la sécurité sociale d'Ambroise Croizat. C'est-à-dire qu'il y a trois principes, l'universalité, la cotisation et la démocratie. L'idée de base de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que dans notre carte vitale, nous puissions, chaque mangeur et mangeuse, recevoir 150 euros par mois pour acheter des produits produits par les paysans françaises et français, donc locaux, biologiques si possible pour la santé, avec des caisses. Donc Dora va expliquer son expérimentation, avec le fait que chacun participe, quelle que soit sa place dans la société, quel que soit son niveau de vie, chacun compte pour un, une femme, un homme, une voix, comme dans les coopératives, et que ces collectifs décident ensemble de faire des conventions, de conventionner avec les producteurs, comme avec les distributeurs ou les transformateurs, de la semence jusqu'au compost, en passant par toutes les étapes. Chacun serait membre de ce collectif ou de cette coopérative qui nous permette d'avoir une alimentation saine et durable. Et l'ensemble, tu l'as dit, et je vous salue pour cette intro, elle était super chouette. Et c'est vrai que changer donc de la semence jusqu'au compost en passant par la fourchette nous permet d'être donc systémique et de le faire de façon pacifique. Et ça, c'est très important en se parlant, en tissant du lien social, et je vous expliquerai pourquoi et comment tout à l'heure, en tissant ces liens entre la diversité de mangeurs, de producteurs, etc., on peut tranquillement améliorer notre vie et changer l'image de la France et de son agriculture et des systèmes alimentaires.
D'accord, merci. Tu as bien posé les trois piliers, universalité, cotisation obligatoire, conventionnement des producteurs de manière démocratique. Mais là, actuellement, la SSA, en termes de mise en place, on en est où? Alors, il y a des expérimentations, effectivement, Dora va nous expliquer celle de Cadenet, mais il y a aussi des démarches au niveau parlementaire pour essayer de rendre ça un petit peu plus officiel, un petit peu plus systémique vraiment, c'est-à-dire au niveau de la France.
Alors oui, c'est en train de monter partout en France. Il y a une quarantaine d'expérimentations. Une centaine de collectifs comme le mien qui sommes en train de réfléchir à comment on peut nous aussi expérimenter sur le territoire. Donc ça touche quasiment toute la France, d'une part. Et effectivement, des propositions de loi sont en train d'émaner de ces expérimentations. Alors il y en a une première qui vient des écolos, qui est une loi pour financer une quarantaine ou une cinquantaine d'expérimentations. Bon, elle n'a pas pu passer l'étape du vote, mais elle sera probablement reposée. Et il y a les autres partis de gauche et les mouvements, dont le mien, la France Insoumise, mais pas que. Nous travaillons à des propositions de loi, là, carrément, pour créer la septième branche de la sécurité sociale, en ouvrant tout au débat.
C'est-à-dire tout?
C'est-à-dire, il y a des questions internes qui se posent. Comment on finance la sécurité sociale de l'alimentation? Pour faire 150 euros par être humain qui mange en France, il faut 120 milliards. Voilà, 120 milliards, ça ne se trouve pas en claquant des doigts. Alors, ça a été dit dans l'intro, on peut déjà récupérer les 19 milliards de la malbouffe. Il y a la cotisation. Nous, à la France Insoumise, mais et avec d'autres, avec des chercheurs, avec des copains de la CGT, de la Confédération Paysanne et d'autres, on propose d'être un peu provocant, c'est-à-dire que pour l'instant, dans notre proposition de loi, on propose une cotisation patronale de 15 points, et donc ce serait le patronat qui paierait tout notre système alimentaire pour avoir les 120 milliards. Évidemment, dans le cadre de notre lutte de classe avec les patrons, avec les bourgeois, on met la barre haute pour ensuite négocier, mais on peut trouver tout un panier de recettes qui nous permettront de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation. Il faut se le dire, l'argent est là, il suffit, c'est pas facile à dire, mais il nous faut le récupérer, se réapproprier l'argent que nous, travailleurs, produisons pour le mettre en place dans la sécurité sociale de l'alimentation.
Mais moi, j'ai entendu un chiffre circuler, tu parlais de 120 milliards de coûts pour financer cette sécurité sociale de l'alimentation. J'ai eu en tête, à l'occasion d'une conférence, je crois, le chiffre de 125 milliards que coûterait en fait la malbouffe pour les dépenses publiques actuellement, entre les problématiques de santé, etc. C'est quelque chose qui, finalement, 120 milliards versus 125 milliards, ça s'équilibre.
Alors, si ce chiffre, je ne connais pas ce chiffre, mais si c'est vrai, ça m'arrange et ça va dans notre sens. Ça va dans notre sens pour récupérer ce pognon de dingue qui est mis dans la malbouffe et dans la merde pour transformer tout notre système agricole et alimentaire. D'autant plus que, et ça, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut que je le dise, mais bon, je le dis, transformer notre agriculture, faire bifurquer, accompagner nos paysannes et paysans dans la bifurcation écologique, ça nous permet aussi de faire du bio et en faisant du bio, de protéger les sols, l'eau et l'air, d'avoir une meilleure santé. Les dernières études en cours, et il va y en avoir de plus en plus, nous montrent que quand on mange bio, on a 26% de chances en moins d'avoir des cancers et on a moins de maladies graves. Et donc oui, il faut continuer à retrouver une bonne santé. Et en une génération, on peut aussi récupérer plusieurs dizaines de milliards.
Est-ce qu'il faut parler...
bien que de l'argent, il y en a partout. Il faut le réorienter, le mettre dans le bon sens.
C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas parler, en fait, plutôt que de dépenses, de parler d'investissement? Parce que finalement, ces milliards que l'on mettrait dans la sécurité sociale de l'alimentation, eh bien, ils éviteraient des dépenses, puisque c'est pour faire de la prévention, quelque part, ils éviteraient des dépenses sur la branche sécurité sociale santé.
Exactement, c'est ce qu'on cherche aussi à calculer. Effectivement, ça nous rend d'autant plus possible le financement de la sécurité sociale de l'alimentation que d'avoir, de compiler tous ces chiffres et toutes ces recettes et toutes ces pertes du système capitaliste. Ça nous permettrait vraiment de la financer assez rapidement. C'est pour ça que le plus vite possible, on veut pouvoir faire en sorte que les élus de la République puissent voter la création de cette septième branche de la sécurité sociale.
C'est quand même pas dans l'air du temps. Le principe merveilleux de la sécurité sociale de manière générale et de la sécurité sociale de l'alimentation en particulier, ça plaît pas à tout le monde.
C'est pas grave, c'est la vie. Par contre, ce qu'on est en train de faire tous ensemble, avec les expérimentations, avec Dora et plein d'autres, nous allons montrer, là je commence à faire ma petite promo, il y a un colloque sur la sécurité sociale de l'alimentation qui aura lieu les 30 et 31 janvier à la Bourse du Travail de Paris, où il y aura une journée dédiée à l'expression de toutes les expérimentations françaises pour permettre de les faire connaître, d'échanger les expérimentations et l'expérience avec la population française, et un deuxième jour qui sera suivi par de très nombreux médias, qui sera la popularisation de la SSA auprès de l'ensemble de l'opinion publique française pour faire en sorte que ce mouvement qui est déjà créé et qui est en train de s'élargir dans le pays prenne une plus grande ampleur jusqu'au point à devenir irrésistible.
Merci Bruno. Alors Dora, vous, en tant que membre de la CLAC, donc la Caisse Locale Alimentaire de Cadenet, est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs votre expérience concrète sur le terrain?
Alors nous, on peut dire que notre caisse, c'est avant tout une aventure démocratique, justement. On a travaillé beaucoup sur ça et aussi sur le conventionnement. Mais il s'avère que la démocratie prend une grande place. On a quand même quelques particularités. En fait, on n'a pas de financement public, donc pas de salariés, puisque les financements publics, c'est surtout pour les frais de fonctionnement. On n'a pas le droit de les donner aux membres pour s'acheter de l'alimentation. Et aussi, on ne demande pas de contribution financière. Il n'y a pas de cotisation. On tient compte du temps investi dans l'expérimentation. C'est surtout une estimation du temps global investi. Hein. On n'a encore pas pris en compte le temps individuellement. Et on est en autogestion, il y a des groupes de travail et ça fonctionne comme ça. Donc concrètement, on a bénéficié d'un financement de la Fondation de France de 60 000 euros et on a calculé que ça nous permettait de rembourser 150 euros d'achat alimentaire de produits conventionnés par mois pendant un an à 33 foyers. Et ces 33 foyers, ils ont été choisis, enfin, pas choisis, il y en a 23 qui ont été tirés au sort au cours d'une réunion publique qu'on a faite en octobre 2023. Et il y en a 5 qui faisaient partie d'un groupe qui a déjà travaillé en amont depuis 2022, qui réfléchissait à créer cette caisse. Enfin, finalement, c'est devenu une caisse. Au début, on a hésité, on s'est dit, on fait une cantine, on fait autre chose. Enfin, finalement, on a décidé de faire cette caisse. Donc, il y en a 5, 23 sans condition tirés au sort, 5 du groupe qui avait réfléchi 2 ans auparavant et 5 issus des bénéficiaires de l'épicerie solidaire. Donc, des gens en situation de précarité pour essayer de varier un peu les profils. Et ces 150 euros, donc ces achats, ils doivent être faits dans 3 lieux d'achat qui sont partenaires de notre expérimentation dans le village. Il n'y a pas des masses de commerce, hein, malheureusement, dans le village. Et donc, les 3 lieux d'achat sont le magasin de producteurs qui existe sur la commune. C'est une commune de 4500 habitants à peu près. L'épicerie du village et un paysan qui distribue des paniers dans le cadre d'une AMAP. Et ces achats, donc, les produits, on les a conventionnés. On n'a pas conventionné les lieux d'achat, on a conventionné les produits. On a mis la barre un peu haute. On a évalué, on a échafaudé une grille de conventionnement dans laquelle il y a 5 critères qui sont l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé, la taille des fermes, l'indépendance par rapport à l'agro-industrie et les conditions sociales dans lesquelles sont produits les aliments.
Ça a été déterminé par le petit groupe d'origine.
Voilà, tout ça, ça a été, je vous dirai après, le temps je finis, puis après oui. Je reviens sur la manière dont ça a été décidé. Et donc, on a aussi décidé de rembourser selon 3 taux de remboursement, 100%, 70% ou 30%. Selon que les produits, la manière dont ils sont fabriqués, se rapprochent plus ou moins d'un idéal qu'on avait déterminé après avoir fait nos réunions pendant 2 ans, là, depuis 2022. On avait fait une fresque et on avait dessiné l'idéal, le territoire alimentaire idéal qu'on souhaitait 30 ans dans 30 ans. Donc, c'était 2052.
Ah oui, vous avez vu loin.
On a vu loin, oui. On a vu loin. Et d'ailleurs, dans cet idéal, on avait dessiné une fresque. Et il y a même le musée de l'agro-industrie, parce qu'on s'était dit que l'agro-industrie, ce serait fini et que ce serait dans un musée. On peut rêver, mais on agit en même temps.
On a besoin de rêver.
Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit là, ce que je voulais dire.
Donc aujourd'hui, oui. c'est 33 foyers qui en bénéficient. C'est remis en cause tous les ans. Comment ça fonctionne
Non, alors voilà, la caisse proprement dite, elle a démarré en avril 2025. C'est-à-dire que le groupe de réflexion, il a commencé en début 2022. Ensuite, il y a eu une réunion publique. On a recruté donc les 33 membres en octobre 2023. Mais ensuite, pendant 6 mois, on a encore... À raison d'une réunion par mois. Enfin, nous, depuis 2022, on faisait une réunion tous les 15 jours. Ensuite, quand il y a eu les 33 membres, on a fait une réunion tous les mois. Mais le groupe continuait dans l'intervalle à préparer les réunions mensuelles. Et donc, il a été décidé démocratiquement entre octobre et avril là, de décider de démarrer la caisse proprement dite en avril 2024. Et donc, on a eu ces 60 000 euros, on a tenu pendant un an et on a bénéficié d'un autre financement, d'une autre fondation, de la Fondation Carasso, qui permet de poursuivre l'expérience jusqu'au 31 mars 2026. On a renouvelé seulement une partie des membres.
D'accord. Chaque année, quand même, vous êtes un petit peu dans le doute de savoir si ça va pouvoir continuer ou pas en fonction des financements que vous allez recevoir.
Ah bah, de toute façon, ça c'est le gros questionnement maintenant qui se pose. Hein. On sait très bien que les financements, ils ne vont pas être attribués comme ça éternellement, d'autant plus que les fondations, elles ont tendance à financer plutôt des projets novateurs et que maintenant, bah, c'est un peu moins novateur, puisque ça se répand, heureusement, tant mieux. Mais
et le choix de pas de cotisation, vous l'avez fait pour quelle raison?
Alors, pas de cotisation, nous l'avons fait parce que nous sommes une petite expérimentation, donc 33 membres, ce n'est pas beaucoup, dans un petit village. On a craint que ça génère des phénomènes de prise de pouvoir par les gens plus riches que les autres. Et c'est essentiellement pour ça.
Et de ta connaissance des autres expérimentations de caisses alimentaires, est-ce que...
On est les seuls à faire ça,
en fait. Vous êtes les seuls à faire ça, d'accord. La plupart passent par le système de cotisation.
À fonctionner comme ça.
D'accord.
Mais c'est un peu remis en question par des gens qui trouvent que c'est, je dirais, immoral. J'ai l'impression, dans les critiques que j'entends des fois, j'ai l'impression qu'il y a une question de moralité qui se met là-dedans. Et nous, on a souhaité que les gens, ils aillent acheter leurs produits alimentaires de la même façon qu'on va chez le médecin et on ne sait pas dans la salle d'attente si les gens, ils cotisent plus, ils cotisent moins, parce que, comme l'a dit Bruno, le système de cotisation de la sécurité sociale et donc le projet pour une sécurité sociale de l'alimentation, ce serait qu'il y ait des cotisations patronales. Et c'est un peu illusoire de se dire qu'on peut fonctionner, nous, à 33 membres, en faisant des autocotisations, en se cotisant tout seul, quoi. Parce que d'une main, tu prends et de l'autre, tu récupères. Alors, au lieu de 150 euros, si c'est plus 150 euros, quoi.
Tu aurais une réaction, Bruno, par rapport à la présentation de cette expérimentation?
Ah ben, ce qu'ils font à Cadenet, pour moi, c'est génial. Et ce qui est intéressant, Dora a bien expliqué qu'il y avait des choses qui ne faisaient que eux seuls à Cadenet. Et c'est pour ça qu'on fait le colloque en janvier, pour que toutes ces expérimentations sont très diverses, elles sont très locales, elles sont très en phase, ancrées sur leur territoire. Et c'est ces expérimentations qu'il faut pouvoir partager. Parce que, je le rappelle, avant qu'Ambroise Croizat crée la sécurité sociale grâce au CNR après la résistance, après la guerre, il y avait déjà avant plein de bourses du travail, de caisses de sécu, de mutuelles. Ça foisonnait partout dans le pays. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est à tout coordonner au niveau national, à faire une loi et à faire une sécurité sociale gérée par les syndicats, au moins jusqu'en 67, puisqu'ensuite il y a eu des détournements de la part du patronat et des gouvernements capitalistes. Et donc là, il se passe la même chose. Vous voyez, en Alsace, ils font une caisse de sécurité sociale de l'alimentation sous forme de mutuelle. Partout, à Montpellier ou à Bordeaux ou dans le 20e arrondissement de Paris, tout fonctionne différemment parce que c'est fait par les citoyennes et les citoyens eux-mêmes à la base, par le bas. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on montre à l'ensemble des Françaises et des Français, déjà pour que la population soit informée, qu'elle s'en mêle et qu'elle prenne en main son destin et son futur. C'est normal que Cadenet ait réfléchi à 2052. Les villes qui travaillent sur les plans alimentaires territoriaux travaillent à 2030-2040, parce qu'un système alimentaire et agricole, ça ne change pas en claquant des doigts. Voilà, je suis un peu bavard, mais je voulais mettre un fond commun. Donc, il y a besoin que chacun, et ça c'est important, prenne le temps de la démocratie. Dora l'a bien dit, ils ont mis un an. À peu près partout en France, on met une bonne année à se connaître à se connaître les uns les autres, les paysans, les citoyens, les mangeurs, les usines de transformation, les distributeurs, les boulangers, enfin tous ceux qui veulent participer, les AMAP. Et il faut du temps pour la démocratie, mais ensuite, ça fait des caisses qui fonctionnent super bien.
Merci.
Qui ont besoin de financement.
Merci à vous deux. Tu veux ajouter quelque chose, Dora?
Ah oui, quelque chose de très important.
Vas-y.
D'ailleurs, ce n'est pas un an qu'on a mis, c'est deux ans. Hein. Ça, c'était la petite parenthèse. Ouais. Je voudrais revenir sur le côté démocratique, justement, de notre expérimentation, parce que c'est très important. Je pense qu'on a pu mettre en place ces conditions démocratiques grâce à la construction d'une connaissance de cause commune. C'est-à-dire que chacun doit décider en connaissance de cause, mais on a fait en sorte que tout le monde ait les mêmes bases. Et cela, en suivant un parcours d'apprentissage qui s'est fait en trois thèmes.
Très important.
Sur la sécurité sociale, sur le système alimentaire et sur la démocratie participative.
De l'éducation populaire, quoi, c'est ça?
Et cet apport de connaissances, ça a permis un nivellement des différences entre nous tous et ça a permis à chacun d'avoir plus de légitimité, y compris ceux qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer ou qui se sentaient un peu insuffisants, incompétents. Et donc à chacun de pouvoir exprimer son point de vue et de participer aux décisions, et au lieu que ce soit juste les détenteurs du savoir qui s'emparent du pouvoir. Et ça a aussi développé un sentiment d'appartenance. Ça a été très puissant, ça nous a permis de faire groupe et on a eu beaucoup de plaisir à se retrouver, à participer aussi à la construction de ce sentiment d'appartenance, la rédaction d'un manifeste. Je parle des 2 ans qui ont précédé le démarrage de la caisse. Hein. La rédaction d'un manifeste qui nous a permis de nous définir pour créer les statuts de l'association, puisqu'on devait gérer de l'argent, c'était obligatoire. Et donc tout ça, ça a été très très puissant.
Je te propose qu'on y revienne dans une deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause musicale pour reposer les oreilles parce que déjà on a appris beaucoup de choses sur la sécurité sociale de l'alimentation. Merci et à tout de suite.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible. Ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes. Boîte protégée par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Sardine à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème. Arrosé sans. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs. 2 tartines beurrées. Et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible,
ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
C'était Marianne Oswald qui interprétait de manière très poignante la grasse matinée, en nous remettant en fait les pieds sur terre, sur ce que c'est d'avoir faim. Parce que là, on parle d'alimentation, mais avoir faim, c'est une réalité. Il y a des gens qui souffrent de la faim aujourd'hui. Alors avant de revenir à vous, Dora et Bruno, j'aimerais aussi vous faire entendre la voix de celles et de ceux qui sont impliqués et qui bénéficient d'une autre forme d'expérimentation, qui est aussi une réponse à l'urgence différente de l'aide alimentaire. Ce que vous allez entendre maintenant, ça se passe dans la banlieue de Lyon, à Rieux-la-Pape, le VRAC, vers un réseau d'achat en commun. C'est un système de groupement d'achat présent dans 100 quartiers en France qui permet aux bénéficiaires d'avoir accès à des produits de qualité, produits responsables, à des prix coûtants, du fait en particulier de la suppression des intermédiaires.
Donc ici tout est vendu en vrac. Là on a tout ce qui est liquide, donc de l'huile d'olive, du liquide vaisselle, de la lessive. Et donc les gens viennent avec leur propre contenant. On a des entonnoirs, ils mesurent la quantité qu'ils ont précommandée.
Donc, vrac signifie vers un réseau d'achat en commun. Et c'est à destination des gens habitant dans les quartiers prioritaires de la ville pour leur permettre d'accéder à des produits de qualité à des prix compétitifs. L'aide publique, c'est des gens qui sont éligibles à l'aide sociale ou des étudiants, donc des gens qui ont besoin d'une aide pour accéder à de l'alimentation, et cette fois-ci, c'est une alimentation de qualité.
On a de la farine T80, donc qui est un petit peu...
Les tarifs, alors il y a trois tarifs. Le tarif prix hors quartier, donc c'est pour les personnes qui ne sont pas dans les quartiers politiques de la ville, en fait. Ce tarif est basé sur le prix producteur plus 10%. Après, vous avez le prix QPV, donc le prix quartier. Ça sera le prix producteur moins 10%. Et vous avez le prix coup de pouce pour ceux qui sont vraiment en très très grande difficulté financière et sociale, où là, c'est le prix producteur moins 50%. Par contre, en début d'année, je crois, l'État a supprimé des subventions sur justement des produits qui sont intéressants. Le sel, le sucre, le chocolat, le miel et le beurre, sous prétexte que c'est des produits qui sont trop salés, trop sucrés et trop gras. Ils ont failli faire la même chose pour l'huile, sauf que VRAC s'est battu pour conserver l'huile avec les trois tarifs. Voilà.
Les corporels, des crèmes pour le visage, et on fait un partenariat aussi.
Alors ici, j'ai plutôt tendance à acheter tout ce qui est fromage. Huile d'olive, parce que ça vient de... C'est du bio, ou alors c'est d'une très bonne qualité. Et ce qui nous permet aussi d'avoir de la bonne qualité.
Avec une boulangerie à Vancia, donc proche de Rieux, qui s'appelle le Fornil, qui est une boulangerie bio et qui nous fournit du pain. En ce moment, on a du pain semi-complet et du pain aux noix que les adhérents peuvent acheter via le VRAC.
Calade 100.9. Voilà, merci à Alexia, Vincent, Christine, Christelle qui ont accueilli Monique avec beaucoup de gentillesse. Ce que je trouve, moi, personnellement marquant dans cette expérience VRAC, c'est vraiment la notion de vivre ensemble qui ressort de liens sociaux qui se créent autour de la nourriture, ainsi que la notion de plaisir. Alors, Dora, est-ce que vous, dans votre expérience, ce sont aussi des bénéfices, cette notion de vivre ensemble, etc., que vous constatez dans le cadre de votre expérimentation ?
Eh bien justement, notre expérimentation, on a la chance d'être accompagné par une chercheuse en recherche-action qui depuis le démarrage de la caisse, distribue des questionnaires et recueille des témoignages. Et il s'avère que, hormis le fait que c'est un avantage financier, bien entendu, et que ça augmente le chiffre d'affaires du magasin producteur, bien entendu aussi, il s'avère que Elle a constaté que chez les usagers, il y avait une nette politisation autour des enjeux agricoles, environnementaux, alimentaires, que aussi les gens ils avaient un autre regard sur le territoire, qui faisait confiance aux producteurs, qui avait un lien de confiance entre les producteurs et les consommateurs, que les gens ils se sentaient fiers de les soutenir, d'avoir cette transparence, de savoir d'où viennent les produits, fiers de sortir de l'anonymisation, contrairement à quand on va dans les supermarchés, et que maintenant, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller au magasin de producteurs, Ils ont finalement pris l'habitude. Au début, ils étaient gênés et maintenant, ils sont plutôt fiers de sortir leur petite carte. Enfin, d'ailleurs, maintenant, c'est plus la peine de sortir la carte parce qu'ils sont reconnus comme faisant partie de la caisse. Et de même, il y a aussi une influence sur la sociabilité. On invite davantage, on est content, on peut faire des bons produits quand on est invité, on est chez des amis. Et on a même constaté que le comportement d'achat est différent. On va moins au supermarché, le comportement d'achat est différent. Et il y a aussi une redynamisation de la vie sociale. Oui. Et aussi de la vie citoyenne. En fait, les gens, ils se sentent appartenir à un groupe, ils sont plus acteurs dans le village, ils s'engagent davantage. Et il y a même un grand nombre de membres de la caisse qui s'investissent dans la création d'une liste citoyenne pour les prochaines municipales.
D'accord. Au-delà donc du bénéfice financier, quelque part, pour les bénéficiaires, je me répète, mais ce n'est pas grave, il y a aussi effectivement cette dignité là, que tu évoquais, de pouvoir inviter des gens chez soi, etc. Et est-ce que pour les autres membres, quelque part, du système alimentaire, les producteurs, les commerçants, etc., vous ressentez aussi un impact positif ?
Ben, il y a ce lien de confiance et les producteurs, ça valorise leur métier de paysan et il y a un retour favorable sur leurs produits et ils retrouvent un sens à leur métier. Bon, après, on a 33 membres, alors c'est pas non plus des modifications énormes, mais ça ressort quand même dans les questionnaires qui remontent à notre chercheuse. Et ça leur permet aussi d'accéder à des nouveaux consommateurs. Il y a des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans le magasin de producteurs, même sans être en situation de précarité.
C'est ça. Et dans votre situation, les magasins de producteurs, ils sont à proximité des bénéficiaires, c'est ça ?
Il y a un magasin de producteurs.
Oui, le magasin de producteurs, oui. Non, parce qu'on entend souvent ce reproche.
Ça demande quand même un petit effort parce qu'il est un peu à l'écart. Il est en bas du village. Bon, c'est à 10 minutes à pied.
C'est la Bardane, c'est ça ?
Oui, la Bardane. Oui.
Mais c'est vrai que c'est un reproche qu'on peut entendre sur ces caisses locales qui sont mises en place, c'est que parfois les magasins dans lesquels les gens peuvent aller s'approvisionner, ben, ils ne sont pas dans les quartiers où les gens ont véritablement les besoins.
Ben, c'est malheureusement le cas pour les autres commerces, hein, mais c'est un des projets de dans les groupes de travail qu'on a, il y a un groupe pérennisation de la caisse, savoir qu'est-ce que ça va devenir après, et y compris après si on n'a plus de financement. Mais en tout cas, il y a un des projets, c'est d'essayer de mettre une antenne du magasin de producteurs dans le village pour que les gens ils puissent accéder plus facilement, pas forcément en sortant du village.
D'accord. Alors, si tu devais faire un petit bilan aujourd'hui, quelles seraient les principales réussites, les principales difficultés et quels conseils vous donneriez à des gens qui voudraient se lancer dans cette aventure sur d'autres territoires ?
Bien, les conseils, c'est de faire attention justement à ces phénomènes de domination par l'argent et par le savoir. Parce que ça fait vraiment société de faire un groupe comme ça et ça a des effets à long terme en fait. Et donc de créer cette connaissance commune, c'est vraiment important, vraiment important. Moi, si je suis restée dans ce groupe, c'est vraiment pour ça. J'ai pas su mettre les mots tout de suite au début, je comprenais pas vraiment, enfin j'aurais pas pu le dire, mais je suis restée dans ce groupe parce qu'il y avait cet effort de donner le même poids à la parole de chacun
et apprendre mutuellement aussi, c'est-à-dire
oui, apprendre tous ensemble pour ensuite être un peu sur un pied d'égalité, même si on n'est jamais tous égaux, on a toujours des compétences un peu plus ou un peu moins, mais malgré tout, c'est très important de parler tous de la même chose en fait, on parle tous le même langage et ça permet d'avancer ensemble.
Merci Dora. Bruno, on l'a dit au début, la SSA, c'est systémique.
Pardon ? J'ai oublié le truc, c'est de prendre le temps.
Et de prendre le temps. Oui, merci Dora. Oui, je disais que la SSA, c'est systémique. Pourquoi, par exemple, c'est très différent de l'aide alimentaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, les Restos du Cœur, etc. Aide alimentaire qui, d'ailleurs, on voit bien, ne suffit même plus aujourd'hui à faire face à la pauvreté. Hein.
Alors, déjà, d'abord, ce qu'a dit Dora est essentiel. Il ne sera rien sans tous les éléments qu'elle vient juste de donner. prendre son temps, diffuser, acculturer, comme on dit, c'est pas joli ce mot, mais que tout le monde soit au même niveau d'information et de formation par rapport au système agricole et alimentaire. Et effectivement, la sécurité sociale de l'alimentation est systémique parce qu'elle change tout. Il ne faut pas le prendre comme genre on va résoudre les difficultés alimentaires de quelques familles, de quelques quartiers ou des étudiants. Moi, j'habite en bordure d'un QPV et tous les mardis, on a les étudiants qui font une file énorme au Resto du Cœur. Et juste à côté, on a ce qu'on a créé, la coopérative La Louve, où je suis sociétaire, où on vend des produits bio les moins chers de Paris parce qu'on fait une marge qui est minime juste pour le fonctionnement et on a créé 15 emplois. Donc, dans la pérennisation des expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation, on voit que dans plein d'endroits, on renforce les AMAP, on crée des coopératives, parfois, bon, nous à Paris, on ne peut pas, mais parfois avec les producteurs directement en zone rurale, ça se fait, comme vient de le dire Dora, et ça, c'est important. Donc, on est dans ce qu'en économie, on appelle l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Alors, vous allez voir sur le site de l'ADEME, tout ce que ça veut dire, mais on crée tout un système où on s'entraide et on se fait confiance et on se parle et on tisse du lien social. Et c'est pas seulement bon, tu es pauvre, je te donne un colis que je suis allé chercher dans les invendus des supermarchés. Et souvent, les invendus des supermarchés, c'est de la malbouffe. On veut vraiment tout changer. La personne qui reçoit les euros pour acheter dans les mêmes endroits que les autres de la nourriture bio et de qualité. VRAC fait un peu ça. VRAC, ça reste quand même de l'assistance à personnes en difficulté alimentaire. Et il faut qu'on aille, la sécurité sociale de l'alimentation, on va au-delà de ça. On les intègre, bien sûr qu'on va réparer cette erreur du système capitaliste, mais le mieux, et c'est ça qui est important, c'est que chacun retrouve sa dignité et sa citoyenneté dans la sécurité sociale de l'alimentation, comme l'a montré Dora, et tous ces étudiants, toutes ces familles, toutes ces femmes seules avec enfants qu'on a dans le quartier, tous ces gens parfois qui vivent en HLM, qui n'ont même pas de meubles et qui n'ont pas de quoi manger dans leur propre quartier politique de la ville. J'ai mes voisins, là, on est en train de monter un groupe de préfiguration de caisses alimentaires. Et effectivement, il faut vraiment que chacun soit au même niveau, qu'on se reconnaisse à égalité, quel que soit notre niveau de conscience, notre niveau de social, notre CSP plus ou moins. Et ça, c'est la première étape la plus difficile, la plus périlleuse, mais en même temps la plus belle, parce que quand on y arrive, on redonne confiance, on redonne espoir, et les personnes retrouvent leur citoyenneté. Et c'est très bien qu'elles fassent, comme chez Dora, des listes carrément municipales, parce que l'implication, elle est de A à Z. Et c'est là où c'est transformateur, et c'est là où c'est complètement pacifique, c'est qu'on utilise les voies, on utilise ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Et d'ailleurs, je fais le lien avec le colloque qu'on va faire en janvier, où il va y avoir une table ronde sur « Peut-on faire la sécurité sociale de l'alimentation sans l'État ?» Voilà, c'est un peu provocateur, mais c'est fait pour discuter. Dora a utilisé le mot d'autogestion. Je crois que l'avenir, vraiment, est à l'autogestion et qu'il faut qu'on puisse dépasser tous les vieux partis politiques qui gèrent la France depuis 50 ans, qu'on puisse dépasser tout ce système qui est à bout de souffle et qui n'arrive plus à résoudre les problèmes des citoyens. En même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que le capitalisme résolve nos problèmes. Donc, soyons autogestionnaires, entraidons-nous et puis fabriquons nous-mêmes nos propres systèmes avec la sécurité sociale de l'alimentation. Et je termine par le lien parce que je suis aussi par ailleurs fonctionnaire et il y a 400 plans alimentaires territoriaux en France et il y en a beaucoup qui commencent à... Ils font plein de choses bien, mais elles sont déconnectées de cette population. Et donc, faire le lien entre les plans alimentaires territoriaux et la sécurité sociale de l'alimentation est un moyen de pérenniser les expérimentations locales, dans un premier temps, et d'élargir la connaissance de la SSA à une plus large population et trouver des voies, y compris pour les élus qui galèrent, des voies de résultats concrets de ce à quoi peut aboutir un plan alimentaire territorial. C'est que dans la continuité, à la fin de ce plan et de ces diagnostics, ben, construire des sécurités sociales de l'alimentation partout où on peut, en lien avec les collectivités territoriales.
Merci Bruno, c'est très clair. Il y a une chose que j'aurais souhaité rajouter par rapport à l'aide alimentaire classique, c'est l'aspect gaspillage. J'ai lu récemment que chaque année, via l'aide alimentaire, il y avait 13 000 tonnes de nourriture qui étaient jetées. Parce que ce que donnent les magasins et qui bénéficient par ailleurs de défiscalisation, c'est souvent des choses qui sont plus très très bonnes. Et donc il y a 13 000 tonnes à chaque fois qui sont jetées par l'aide alimentaire chaque année. Est-ce que tu pourrais nous parler, Bruno ou Dora, si tu le souhaites, des arguments qu'on pourrait avancer aux détracteurs de la sécurité sociale alimentaire ? Comment on y répond ? Alors, évidemment, il y a celui du coût, mais alors, là-dessus, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments pour les détracteurs de la SSA ?
Alors déjà, il faudrait que les détracteurs nous lancent leurs arguments. À ce jour, ça fait plusieurs années qu'il y a des collectifs partout en France. Les détracteurs, il n'y a pas beaucoup de critiques. La seule critique qu'on nous fait en ce moment, c'est comment on va payer, comment on va financer tout ça. Il n'y aurait pas d'argent. Mais on en a parlé tout à l'heure, tu as toi-même donné les chiffres de 125 milliards et de 120 milliards. Donc voilà, les détracteurs, on n'arrive pas à dire du mal de ce qu'on fait parce que c'est citoyen, parce que ça part de la base, parce que ça répond de façon systémique aux problématiques et des paysans à la source, mais aussi des mangeurs, mais aussi de la distribution, du transport, de la logistique. Ça répond à tout le monde, en fait, à toute la société. Et donc, pour l'instant, il faudrait que tu me dises quels sont les arguments des détracteurs, parce qu'à ce jour, à part le débat sur le financement, les détracteurs, ils en veulent pas parce qu'ils sont contre, idéologiquement.
Et je peux dire un petit mot. Au sujet du financement, je ne peux pas m'empêcher de penser, évidemment, c'est une volonté politique, hein, et je ne peux pas m'empêcher de penser à la lutte contre l'évasion fiscale, parce que là, il y en a de l'argent.
Oui, c'est ce que vous dites toutes les deux. Et on en est aussi persuadés. Alors, en guise de conclusion, j'ai entendu dans une interview que tu donnais, Bruno, que tu as dit que la SSA, c'était aussi un moyen de recréer de la République. Là, ça ne va pas un peu loin, là ?
Non, c'est super. Dora l'a montré dans son expérimentation.
Vas-y, c'est ce que j'ai dit. Vas-y, je te laisse parler, Bruno.
Non, Dora a superbement expliqué les choses. Ils en sont arrivés à faire une liste municipale parce qu'ils ont compris qu'il fallait tout changer et que le monde nous appartient et que le futur est à nous. Donc, à partir de là, ça, bien sûr que ça se développe. On retrouve notre place de citoyen. Excuse-moi, pardon, Dora, vas-y.
Oui, je corrige. C'est pas le groupe du CLAC qui a créé une liste citoyenne, mais c'est des membres du CLAC qui ont rejoint une liste citoyenne parce qu'ils se sentent faisant partie d'un projet collectif et à construire quelque chose de nouveau pour la société. Ils ont repris confiance et ils ont conscience qu'ils sont acteurs. Et ça, c'est important. Ça fait société.
Voilà, tout est dit là. La citoyenneté et la République. La République est malmenée, il faut au moins la réparer, si ce n'est la reconstruire du tout au tout. On reste sur des bases, les bases de la République française, liberté, égalité, fraternité, on peut dire adelphité aujourd'hui, et la laïcité et tout ça ne sont jamais mises en œuvre par le système capitaliste. Et on ne peut pas compter sur les partis et politiques qui défendent ce système depuis des décennies, maintenant, voire des siècles. On le voit bien, ça ne nous apporte pas de bien-être aux citoyennes et aux citoyens. Et donc, ce qu'on construit là, à travers la sécurité sociale de l'alimentation, tout ce lien social, et là, je fais le lien avec le dernier livre de Pablo Servigne, qui fait un manifeste justement pour l'entraide, et ils ont créé le réseau des tempêtes, où citoyennes et citoyens, on se met nous-mêmes en réseau, on s'autogère pour dépasser les problématiques qu'on va avoir. S'il est urgent d'avoir des plans alimentaires territoriaux et une sécurité sociale de l'alimentation, c'est aussi dans quelques années, 2030, 2040, 2050, qu'on soit prêt par nous-mêmes à s'auto-alimenter, à gérer notre environnement, à vivre en harmonie avec le vivant et surtout à être capable de gérer par nous-mêmes les risques climatiques qui sont en train de se développer à vitesse grand V. Et ça, on ne peut pas compter ni sur nos dirigeants, même pas sur la COP30, même pas sur personne, que sur nous-mêmes, pour être alternatif, parce que si on fait de la nourriture bio, on fait des champs bio, on protège, je l'ai dit tout à l'heure, les sols, l'air et l'eau, et donc ça crée ensuite, on a envie de protéger tout le reste du vivant et nous-mêmes. Voilà, je préfère
merci beaucoup.
Donner l'exemple, par exemple, des camarades dans le sud qui ont créé la coopérative Scopti. Ben, le monde de demain sera pour moi un monde de mixte entre des coopératives qu'on aura tous construites ensemble. Et les services publics. Pour moi, demain, il n'y a plus d'entreprises privées, il n'y a plus d'actionnaires qui touchent de l'argent sur le dos de notre sueur et de notre travail, de notre labeur. Et on s'autogère et l'argent circule pour nous permettre d'être dans le bien-être et la liberté. Et ça, c'est le slogan de la CGT dont je suis membre. Et j'appelle tous les syndicats de France et toutes les associations qui nous écoutent à se joindre à nous pour le colloque, pour gagner ce mouvement irrésistible de la Sécu.
Merci beaucoup pour ces belles paroles d'espoir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé avec nous vos réflexions, vos expériences. Moi, je retiens que la SSA, c'est une antidote à l'impuissance face au lobby sur un sujet qui concerne tout le monde. Donc, bravo. Merci aussi à toutes les personnes qui ont répondu au micro tendu par Monique Arrieux. Une petite pause musicale.
Monsieur, madame, pour mon chant en bras pas, il se parle à travers la cloison. Il se pose des questions bizarres et elle lui dit, voyons Gaston, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Une petite salade avec de la mayonnaise, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Une petite salade avec de la mayonnaise. On ne peut jamais savoir ce que tu dis. On ne peut jamais savoir ce que tu fais. On ne peut jamais savoir ce que tu manges.
Bouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabouillabou Qu'est-ce que tu manges?
La bouillabaisse, bouillabaisse, bouillabaisse.
Une petite salade avec de la mayonnaise. On ne peut jamais savoir ce que tu dis. On ne peut jamais savoir ce que tu fais. On ne peut jamais savoir ce que tu manges.
Qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Une petite salade avec de la mayonnaise.
Calade
100.9.
Alors, après toutes les notes d'espoir que nous ont données Dora et Bruno, on a pu écouter cette fois une chanson un peu plus gaie avec les Rockets, Une petite salade. Le moment est venu maintenant pour les toujours excellents conseils lecture de Bertrand Lamure de la librairie des Marais.
Pour cette chronique, quelques petites pistes, à commencer par un nom, un écrivain, Élisée Reclus. Élisée Reclus, on le connaît pour l'histoire du ruisseau, l'histoire de la montagne. Et là, je voulais mettre en avant un essai qui s'appelle « À propos du végétarisme ». On est au début du XXe siècle. Et quand il a vu ce qui se passait à l'époque dans les abattoirs, les conditions, il est devenu végétarien. Au-delà du végétarisme, c'est un très bon texte, un texte très intéressant, justement sur ce rapport de l'animal et de l'homme. Mise en avant également sur ces pistes de deux collections, l'une qui est aux éditions Rue de l'Échiquier et qui est une collection qui s'intitule « Agir pour l'environnement ». Des textes très courts, très puissants, faits par des spécialistes, un qui s'appelle « Sur consommation, on arrête tout et on réfléchit », de Samuel Sauvage, qui est très intéressant à la fois pour des données, pour des mises en perspective de la surconsommation actuelle, peut-être quelques pistes, en tout cas véritablement à s'en inspirer. Et ma dernière piste, on va être sur une collection qu'on connaît déjà bien qui s'appelle « Je passe à l'acte » aux éditions Actes Sud, et un texte en particulier qui est « Redevenir paysan ». Alors évidemment, sans être paysan, mais en tout cas, s'en inspirer sur toute une série de pratiques. Donc, quelques pistes, pourquoi pas.
Allez, chouette, encore de bons livres à mettre sur la table de chevet. C'est toujours bon d'ailleurs de revenir aux pionniers comme Élisée Reclus. Merci Bertrand. Avant de clôturer l'émission, je vais laisser le micro à Anne-Sophie pour les dernières nouvelles du gigantesque projet local inutile. J'ai nommé le port de plaisance de Bordelan, de notre chère maire de Reims. À toi, Anne-Sophie.
Et merci Vincent pour cet passage de micro. Et oui, la lutte contre le GPI, le grand projet inutile du port de Plaisance à Anse, se poursuit. C'est vraiment une lutte locale à long cours, mais toujours faite avec détermination par un petit groupe très très chouette d'Alternativa et d'autres collectifs. Donc depuis notre dernière chronique, on peut vraiment se réjouir d'avoir réussi une belle mobilisation sur le site potentiel. C'est au bord de l'étang des communaux à Anse. C'est ce petit lac qui serait totalement détruit pour accueillir le port de Plaisance. Et c'est donc sur place qu'on a fait une belle rencontre citoyenne le dimanche 19 octobre dernier. Sous le soleil d'automne, on a débuté cette rencontre avec des discussions autour des données du projet et on a pu réexpliquer, grâce à l'exposition qu'on avait créée, tous les tenants et aboutissants du projet. Un projet, rappelons-le, qui est porté depuis des décennies par le maire de Anse, M. Pommeray, candidat pour la énième fois à la fonction de maire à Anse. Et donc, on a commencé par un bon pique-nique tiré du panier. 80 personnes présentes au plus haut fort de la rencontre. On était très contents parce que c'était des personnes qui étaient primo arrivants, donc des personnes qui venaient vraiment prendre de l'info sur le projet, ce GPI, ce grand projet inutile. On a commencé donc par ce pique-nique et on a enchaîné ensuite avec des visites guidées par les naturalistes bénévoles. Deux naturalistes, un très très grand merci à Olivier de la LPO et à Delphine des naturalistes des terres. C'est un réseau national, les naturalistes des terres. C'est un réseau national qui se porte avec plein de personnes volontaires pour être en lutte contre des projets d'artificialisation stupide. Et donc là, on est en plein dans le sujet aujourd'hui à Bordelan, à Anse. Et donc grâce à ces deux bénévoles, on a pu prendre vraiment conscience de la richesse de la zone humide et de ses apports pour nous. Donc, belle rencontre sous le soleil. Et on a profité de cette rencontre pour partager un flyer qu'on a fait tirer à plus de 6000 exemplaires. C'est un petit flyer à 5 qui retrace les 5 top raisons de s'opposer au projet du port de Plaisance. La première, je vais vous citer un petit peu ces cinq top raisons. La première, c'est ce projet, il va mener à la fin d'un lieu gratuit de balade et de loisirs. Avec un lieu de fraîcheur, un lieu de baignade gratuit autour du Colombier, dont on n'est aujourd'hui absolument pas certain de la pérennité en cas de ce port de Plaisance. La deuxième des raisons de s'opposer, c'est le montage économique incertain et un coût démesuré. On est aujourd'hui sur un projet au total de 39,5 millions d'euros pour l'ensemble du projet de la ZAC du Bordelan. Et c'est vraiment une aberration économique. Ensuite, la troisième raison, c'est la pollution de l'air, de l'eau et des nuisances sonores. On est vraiment parti sur quelque chose où on va avoir potentiellement, parce qu'on n'a aucun retour concret dans des écrits concrets des porteurs de projets, on est parti sur un chiffrage de 10 litres d'eau noire par jour et par plaisancier. Et quand on attend donc plus de 250 anneaux, on voit un petit peu la catastrophe écologique que ça peut être. Et c'est sans parler du carburant brûlé par les moteurs et les émissions de CO2, etc. etc. On sera donc, quatrième raison de s'opposer, sur une destruction assez forte, même quasiment totale, d'une zone humide cruciale pour l'environnement ici. C'est 20 hectares qui doivent être artificialisés, l'équivalent d'à peu près une trentaine de terrains de foot. On a recensé sur le site une soixantaine d'espèces animales protégées, dont 46 sortes d'oiseaux, etc. etc. Donc on espère vraiment que ce projet ne se fasse pas. En cinquième raison, et ben c'est un peu la totale de tout ça. On est vraiment sur un projet inutile, archaïque, un projet du siècle dernier. Ce petit flyer qui regroupe tout ça, il va être distribué à Anse. On a déjà commencé, mais il va l'être plus massivement au cours du mois de décembre. Et là, on vous fait un petit appel, chers auditeurs et chères auditrices, pour venir participer avec nous à ces activités de boitage et de tractage. Alors venez passer une heure, deux heures avec notre petite équipe déterminée. Pour cela, si vous voulez nous rejoindre, laissez-nous un petit message sur nos réseaux Facebook, Instagram et email. Faites-nous un petit mail si vous voulez. L'adresse, c'est villefranche69@alternativa.eu. Et voilà, on sera encore là, encore et toujours. On est aussi à la recherche d'une compétition
compétences juridiques, si tu es juriste en droit de l'environnement, en droit public administratif, contacte-nous, tes compétences pour la lutte seront précieuses. Et on va pas finir cette petite chronique pour vous dire qu'on n'a toujours pas d'éléments sur l'enquête publique, une enquête qui est annoncée depuis près d'un an maintenant. On ne la voit toujours pas venir, mais pour nous, c'est bah, tant mieux, parce qu'on profite de ce temps-là pour pouvoir faire de la mobilisation et pour pouvoir toujours continuer à augmenter le nombre de signatures sur notre pétition contre ce GPI. Allez faire un tour sur greenvoice.fr, port de plaisance de Anse, et hop, tu vas tomber sur cette pétition. Signe et rejoins-nous dans la lutte.
Merci Anso. Allez, on termine cette émission avec quelques rendez-vous en Calade. N'oubliez pas de participer à la consultation publique à propos aussi du projet des dinosaures à Trévoux. Participez en donnant votre avis, toutes les infos sur les réseaux sociaux des dinos de Trévoux. Le week-end prochain, le groupe Alternatiba de Villefranche-Beaujolais-Saône accueillera la coordination nationale d'Alternatiba pour un week-end de travail, de formation en vue des luttes à venir. Et c'est pas ce qui manque. Ensuite, le 18 décembre, jeudi 18 décembre, on aura la prochaine séance de Cinéma Alternatiba au cinéma Les 400 coups de Villefranche. Comme d'habitude, on diffusera le film Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Séance organisée en collaboration avec les Shifters dans le cadre du festival Transition des Shifters au niveau national. Et ensuite, on aura un petit débat qui portera sur la pollution et ses effets sur la santé. À la technique ce soir, il y avait la brillantissime Gaëlle. Un grand merci aux trois alternatibiens de génie, Monique, Jean-Christophe et Anne-Sophie, qui ont contribué à cette émission que j'ai vraiment eu le plaisir de préparer et d'animer.
Merci à
la prochaine.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.